On va entamer la deuxième partie sur le OI. Pour information, donc, on a interverti les intervenants. On va commencer par Gildas Lescope, donc, qui travaille à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et qui a fait une thèse donc, sur le skinhead, qui était intervenu sur le colloque Rock et Violence sur The Specials et qui va nous parler donc, du sillage du punk, le OI et le ska.
Eh bien bonjour, merci à tous. Donc j'espère que je vais pouvoir arriver à la fin de mon intervention parce que hier, pour soigner mon authenticité, on va dans des lieux pour se faire voir. Donc aujourd'hui, je me sens plus très pur et dans un état plutôt hybride, on va dire. Alors ceci dit, en 1977, donc explosion du punk qui voulait revenir à, on en a parlé, mais justement à plus d'authenticité vis-à-vis de musiciens rock qui étaient... qui se complaisait, on va dire, dans le star system avec des scènes de plus en plus énormes, une distance vis-à-vis du public. Et donc, le punk sera une réaction à ça. Et passera notamment par une réappropriation de la musique, comme on peut le voir là sur le fameux, le truc, la page de Sniffing Glue. C'est-à-dire, vous connaissez trois accords. Je vais y arriver. Je pense qu'il va y avoir du boulot au montage après au son. Vous connaissez trois accords, donc formés un banderac. Et effectivement, beaucoup de jeunes ont pris les instruments, se sont appropriés la musique. Et le punk va aussi ouvrir la voie des revivals, donc notamment revival Teddy Boys, Rockabilly, avec des groupes qui vont se reformer. La petite différence étant qu'à l'époque, les Teddy Boys, les Mods, les Skinheads en fait avaient été adossés à un courant musical. Avec le punk en fait, ça va être les membres de cette scène vont pouvoir jouer eux-mêmes de la musique, c'est-à-dire pas seulement écouter la musique mais produire eux-mêmes de la musique. Donc c'est le cas aussi Revival Mod avec notamment The Jam. Revival Skinhead dans les années 60, lesquels écoutaient plutôt du reggae. Et là, ça va passer à la OI, comme je vais en parler bientôt. Revival musical aussi, c'est la régénération de certains courants musicaux tels que le ska, c'est-à-dire que le ska jamaïcain va connaître un nouveau développement en Angleterre qui va s'appeler le two-tone, avec un mélange, donc l'énergie, mélange l'énergie du punk et donc les rythmes reggae. Alors sur le revival skinhead, parce qu'il va en être question, parce que c'est le public commun des deux genres musicaux que je vais aborder, c'est-à-dire la OI et le ska, faut dire que ça va être deux générations différentes à un moment qui vont se regarder un peu en chien de faïence, entre la première génération des années 60 et la deuxième génération des années 80, l'une étant plutôt axée sur le dressing smart, les rythmes jamaïcains, l'autre sur le dressing hard et les rythmes punk. Et sur le moment, ça a mis deux générations qui n'avaient pas grand-chose en commun avant qu'il y ait une tentative en fait de réunir ça. On revient avec le mythe fondateur, on en a parlé un peu ce matin, du Spirit of 69, et qui décide d'une culture commune. Le groupe en fait qui va polariser un peu ce revival skinhead, ça va être Sham 69. Autour de ce groupe va se fonder la Sham Army, donc un groupe de supporters, on va dire, turbulents. Alors Jimmy Pursey, en fait, avait dit à l'un de ses concerts, les skinheads sont de retour, donc réalisant là un énoncé performatif, qui fait qu'effectivement, les skinheads ont été là. Il a dit aussi à un autre concert, laissez les durs, venez à moi. Et en fait, Sham 69 va avoir beaucoup de problèmes avec son public, notamment avec le public skinhead, et aussi parce que à partir du moment où il a été dit que dans les concerts de Sham, il y avait souvent de la bagarre et c'est là qu'il fallait être et tout, donc ça va tirer de la bagarre. Donc là, c'est un peu une prophétie autoréalisatrice qu'a fait Jimmy Pursey. Bon, Jimmy Pursey, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'était quand même l'incarnation du working class hero. Et c'est un peu pour ça donc qu'il fait des restes, ce genre de choses. Et on va arriver à former ce qu'a été le street punk. C'est-à-dire, la définition, quand je disais plus authentique, c'était vraiment du punk de la rue, avec joué par des gens qui sont égaux à ceux du public. Cette scène va finir par se former. Alors ça va être New Face of Punk, c'est-à-dire un espèce de revival du punk. À une époque, on disait que dès 77, on pouvait voir des graffitis Punk is Dead, en disant qu'il y avait une récupération commerciale. Ça va être théorisé, je vais un peu vite, mais parce qu'on m'a dit qu'on avait 20 minutes, sinon on se fait tabasser. Donc... ouais, jusqu'à là, c'est calme. Ce renouveau, en fait, cette nouvelle vague du punk, street punk, va être soutenue et théorisée par Gary Bushell, qu'on voit ici, malgré son absence de barbe, on le connaît mieux avec sa barbe. Bon, Gary Bushell, c'était un ancien militant trotskiste, bon, qui après a plutôt dérivé à droite, ce qui est assez classique d'ailleurs chez les trotskistes, soit dit en passant. Et donc, qui va nommer... Ah, si on ne peut plus faire des petits règlements de compte... qui va soutenir... donc, était journaliste à Sounds, et qui va soutenir, en fait, cette nouvelle vague punk... Qui va prendre, enfin là on voit justement la nouvelle vague, donc qui conçue comme étant plus authentique que le punk. Donc il va prendre le nom de Oi, donc qui vient en fait Oi étant la contraction de Ayud dans l'argot cockney, qui va être popularisé, dit-on, par le backer de Cockney Reject, qui avait l'habitude de commencer ses morceaux au lieu de faire le 1, 2, 3, 4 en faisant oi, 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 oi. Et voilà comment on est des courants musicaux. Donc, on peut voir à cette époque, là, si on affiche les titres, qu'il y a, la oi va devenir rapidement identifiée au mouvement skinhead, mais les premiers groupes, en fait, on voit qu'il y a surtout des groupes punk. Et à part les Four Skins, en fait, il n'y a pas beaucoup de groupes de skins. L'essentiel étant des punks, en fait. Ouais, quoi que ce soit, mais enfin bon, quand on les voit physiquement, ils n'ont quand même pas tout le dress code qui va avec. Donc l'idée c'est de la OI, c'est jouer de la working class music pour les working class kids. Je pense, alors c'est un avis personnel que je partage avec moi-même, mais que... Entre la différence entre la oi et le punk, c'est que ça passe par une espèce de perte d'ironie. Pour moi, il y a beaucoup d'ironie. Il peut y avoir de l'humour dans le punk. La oi est très crue, très réaliste et pas très déconnante, on va dire. Donc, selon Gary Bushell, la oi sera définie comme étant pro-britannique et pro-ouvrière. Bon, là, on peut retrouver l'orientation du mouvement skinhead. Gary Bushell dira aussi qu'elle est anticapitaliste, anti-establishment, mais apolitique. Il y a souvent un aspect social qui est revendiqué, c'est-à-dire que les thèmes de la OI, c'est souvent la vie réelle, on va dire. Alors souvent, quand on blague entre amis, on dit que les morceaux obligés, si on veut faire un album de OI caractéristique, c'est faire un morceau sur soi pour se présenter, un morceau sur sa région, sur son pays, un morceau sur le football, un morceau sur la violence, un morceau sur, évidemment, les bitures, etc. Bon, un autre morceau sur la violence après la biture, genre on se bagarre le samedi soir. Un morceau sur les filles qui peuplent la scène, qui sont cool, etc. Et je pense qu'on a à peu près tout, quoi. On a un album, ouais. C'est assez facile, on a déjà les thèmes, il suffit de cocher les cases. Donc. Alors les difficultés qui vont entourer très vite la scène OI Street Punk, c'est d'abord les rivalités dues au football. C'est-à-dire que bon, il y avait déjà des affrontements entre sous-cultures, on va dire entre punk, mod, steady Teds, skinhead et compagnie, mais il va surtout avoir des affrontements dus aux engagements footballistiques. Parce que des groupes comme Coxpower, Cockney Reject revendiquaient leur appartenance à West Ham, par exemple, à telle ou telle équipe de football. La OI, c'est très local aussi, c'est-à-dire que tant qu'ils jouent dans leur quartier, pour leur public, dans leur pub, en soutenant leur équipe de football, ça va bien. Mais quand il s'agit de faire des tournées, là, ça devient un peu plus compliqué, parce qu'en fait, ils jouent à l'extérieur, quelque part. Et ce qui est dit dans les comptes rendus de ces groupes, c'est que tous les supporters adverses les attendent dans la ville, en disant, viens donc nous chanter l'hymne de ton équipe si tu oses, quoi. Bon, donc ça a été assez costaud, la plupart du temps. Le problème après, bon, que tout le monde attend, évidemment, ça va être l'intrusion de la politique. Là, on voit par exemple, lors d'un concert de Sham 69, quelqu'un qui exhibe un t-shirt de Young National Front. Et en fait, assez vite, il va avoir des divisions politiques qui vont, comment dire, compliquer cette scène. Historiquement, ce qui s'est passé, c'est que le punk, en fait, a fait des provocations sur la croix gammée, en disant que c'était l'extrême fuck-off, en fait, de porter une croix gammée, surtout en Angleterre. Si ce n'est qu'une formation britannique qui s'appelle le National Front, en fait, qui était, vu que c'était la crise, en voie d'émergence, on cherchait à draguer la jeunesse, et ça va être les seuls à féliciter Sylvie Chess en disant « Non, non, c'est très cool de porter un t-shirt à croix gammée ». Et donc, ils ont fondé, en fait, comme ils voulaient séduire la jeunesse, ils ont fondé d'abord le Punk Front. Ça peut paraître bizarre maintenant, mais là, en distribuant des tracts comme ça, en disant « T'es punk, rejoins le National Front ». En créant un journal aussi qui va s'appeler Bulldog, avec des comptes rendus de concerts et de stades, parce que dans la logique du National Front, en fait, disait « Si on veut plaire aux jeunes, il y a deux terrains qu'on doit investir, ce sont les stades de football et les salles de concert ». Les jeunes ne sont pas intéressés par la politique, ils n'ont pas envie d'aller voir des meetings. Donc on va aller à eux et surtout on va essayer de faire passer nos discours par la musique. D'autre part, ils ont été les premiers aussi, enfin bon, les premiers à faire ça, les premiers aussi à dire que, comment dire, être National Front c'est cool, comme là, ils disent par exemple le journal qu'ils veulent bannir, en disant si, en surfant en fait sur un peu la provocation punk, en disant... être NF, c'est cool parce que ça fait chier tes parents, ça fait chier tes profs, donc ça veut dire que c'est cool. Il va avoir une tentative de récupérer, enfin, ou de s'afficher parce que Joe Pierce, en fait, le responsable du Young National Front, va déclarer tout à tract la OI, c'est notre courant politique musical, alors que les groupes n'étaient même pas au courant. Donc ça va faire un tollé. Ils vont pas réussir à récupérer des groupes en fait historiques du street punk ou de la OI. Donc ils vont chercher à créer eux-mêmes, enfin chercher à recruter leur propre formation. Donc ils vont trouver leur champion, la personne de Ian Stewart et du groupe Screwdriver. Screwdriver qui était avant un groupe punk qui auparavant faisait des reprises des Rolling Stones et qui va en fait virer National Front. Et devenir en fait un peu la fanfare de parti du National Front. C'est-à-dire que là, on va assister à un truc intéressant, c'est une espèce de do-it-yourself d'extrême droite. Ça veut dire que ils vont fonder le National Front à cette occasion, va fonder un réseau, des studios, un label qui va s'appeler White Noise, et donc produire toute cette musique d'extrême droite. Toute cette vague en fait va donner naissance en fait au mouvement Nazi Skin, qui va être très médiatisé. Bon, j'ai eu l'occasion de parler de tout ça, donc je vais pas m'attarder. Alors là où ça va se gâter également, c'est dans le développement de la scène OI. En fait, ça va être à partir de la sortie de cet album Strength Through OI. Donc il viendrait d'un jeu de mots sur la force par la joie, qui était un slogan en fait aussi qui avait cours sous le Troisième Reich. Donc, alors la plupart des Anglais visiblement sont passés à côté par manque de culture historique, on va dire, sachant bon c'est quand même des jeunes, mais bon c'était pas forcément de bon goût. Le deuxième scandale, c'est que la personne qui apparaît sur l'album en fait était autre que Nicky Crane, un membre du British Movement et un responsable. Donc en fait ça va être l'album va faire scandale à cause de ça. Alors ça c'est en France, j'avais retrouvé où il disait ce 33 tours, une anthologie de discours fascistes et de musique des groupes skinheads vient d'être interdit. Bon là on voit, on est déjà dans la panique morale, c'est à dire que tous les groupes qu'on voit être idoles, c'est pas vraiment des groupes de nazis quoi. Je pense qu'ils ont pas dû apprécier la blague. Gary Bushell, voilà. Gary Bushell va dire qu'en fait il connaissait pas cet homme, donc Nicky Crane qui est en photo, qu'on lui a juste passé une photo, il trouvait que le skin avait l'air cool. Donc là on va arriver dans l'aspect Calimero, en fait pas de chance de l'histoire de la OI. Et deuxième effet qui se coule, en fait après ça, alors que l'extrême droite rigolait de dire tiens vous avez mis un des nôtres en album et tout, et en fait il va s'avérer que le Nicky Crane était également acteur porno homosexuel. Donc là du coup c'est l'extrême droite qui veut plus rigoler, parce que ça fait vraiment c'est scandale sur scandale quoi. Alors deuxième chose aussi qui va un peu plomber la œil en fait, ça va être les événements qui seront connus par la suite sur Social Riot. C'est-à-dire que il devait avoir un concert, comme il disait à l'époque, de moindre importance, en attendant du plus gros festival accompagnant la sortie de l'album que je vous ai montré précédemment. Donc un concert qui devait se passer dans un quartier pakistanais. Or, ce quartier avait été le théâtre d'affrontements violents entre membres d'extrême droite et la jeunesse pakistanaise locale, lesquels, quand ils ont vu arriver en fait des cars remplis de skins avec l'Union Jack, et du fait de la médiatisation et des scandales qu'il y avait encore, se sont dit à tous les coups, ça va être un festival de fachos, quoi. Donc, il y a eu en plein milieu du concert. Il y a eu des affrontements avec les jeunes locaux. J'arrive plus. Enfin bref, j'avais, je crois qu'il y a dû avoir 87 arrestations, une vingtaine de personnes, je suis obligé de le faire de tête, une vingtaine de personnes blessées et pas mal de voitures incendiées. Donc le pub a été complètement incendié. Donc je remets Calimero parce que... Gary Bushell dira que c'est une fois de plus, c'est pas de bol, c'est pas de chance, parce que les groupes étaient pas fascistes. C'est un gros malentendu. Donc ça a défrayé la chronique. Ah ouais, d'accord. Je suis en train de voir. En fait, c'est pas du tout. Il commence à ramer hein, l'ordinateur. Je vous dis comme ça. Mais et ce qui fait que ça a lancé, pour refaire une référence à Stanley Cohen. Là, ça a vraiment été la démonisation de la scène Oi et des skinheads, c'est-à-dire le coup de l'album, les événements de Social Riot, en disant que c'est vraiment une scène qui va être infréquentable. Tous les groupes, en fait, qui avaient signé un contrat vont voir leur contrat résilié par les majors. Tous les festivals vont être interdits par la suite. Du coup, ce qui va donner à la Oi, là, le sacro-saint principe d'authenticité, disant qu'on ne peut pas être plus authentique vu qu'on est banni de partout. Sauf que ça a un prix quand même cher à payer. Parallèlement, ça se passe en même temps, va se développer aussi un autre courant musical qui va être le two-ton autour de Jerry Dammer. Alors, le two-ton, il va fonder les Specials, qui va être un retour au ska jamaïcain. À une époque où c'est plutôt le reggae qui était écouté en parallèle avec le punk, parce que le reggae et le punk, en fait, partageant c'est des messages en fait de défiance envers le shitstem, comme disait Peter Tosh. Donc ce retour au ska était pas forcément évident, parce que c'était complètement passé de mode dans les années 70. À l'époque, dans les années 60, où c'était de la musique en fait qui était essentiellement écoutée par les skinheads. J'y reviendrai après. Donc l'idée de Jerry Dammers, en fait, ce sera de reprendre cette musique, également reprendre l'esthétique Rude Boy pour habiller, on va dire, leur groupe, donner une image qu'on retrouve là. Le but au niveau de Jerry Dammers aussi, c'était faire une musique, était faire danser et réfléchir en même temps. C'est-à-dire que ça va être une musique qui va prôner l'antiracisme, qui va l'incarner, parce que la plupart du temps, ça va être des groupes mixtes. Et donc réagir en fait aussi à la politique de Margaret Thatcher, au point que le two-tone va être considéré comme la musique anti-Thatcher. Donc là on voit par exemple ces groupes-là ont été beaucoup ont participé au Rock Against Racism, ont fait beaucoup de marches aussi et d'événements pour combattre le racisme, et notamment à se positionner dans le vis-à-vis de leur public skinhead, en fait, qui était difficile. Et on verra beaucoup, en fait, des groupes comme les Specials, le Selecteur, parler, comme essayer de le faire Jimmy Purcell en son temps, avec les jeunes, en disant, il y a beaucoup de provocations dans ce que vous faites, mais en même temps, c'est pas drôle. Donc, réfléchissez aussi à ce que vous faites. Pour finir rapidement, avant qu'on me mette dehors, il y a un parallèle qui est intéressant à noter entre Madness et Specials, en fait, qui sont les deux grandes figures de two-tone. Madness, en fait, est au travers de deux ou trois de ses membres, était beaucoup plus inscrit dans le mouvement skinhead, c'est-à-dire qu'il les fréquentait. Ils vont avoir un following, en fait, à un public qui sera beaucoup plus skinhead que les Specials, et notamment des problèmes plus accentués avec des membres du National Front, parce que ce sera la seule formation de ska blanc. C'est-à-dire que, donc, pour le National Front, c'est plus facile, les militants, de s'identifier à eux. ils auront des positions un peu en deçà, on va dire, que les specials au niveau de la condamnation du racisme, parce qu'au moment, comme pour les groupes de Oi, les groupes de Ska vont être amenés à avoir des positions claires en disant vous avez un public dont une part est largement douteuse, donc ce serait bien d'être clair sur le sujet. Les specials vont dire de toute façon on est antiraciste, il n'y a pas de souci. Madness va avoir des positions qui vont être on ne condamne pas, on ne soutient pas non plus, si on est là pour faire la fête, s'ils se font pas remarquer, c'est pas notre souci, ce qui compte c'est qu'ils se tiennent bien, donc ça va être considéré comme un peu faiblard par rapport aux positions des uns et des autres. Je vais pas avoir le temps de développer, mais sinon ce qui est intéressant ici, c'est au niveau des specials, c'est que je mets les dernières animations, tant qu'on y est. C'est qu'en fait, ils sont, eux, dans l'ambiguïté. C'est un des mots du programme. C'est-à-dire qu'ils font appel à des références qui concernent les skinheads, mais en même temps, tout en étant mal à l'aise vis-à-vis de leur public skinhead. Ça veut dire qu'ils jouent cette musique. Ils ont des titres qui s'appellent Skinhead Symphony, Skinhead Jamboree, qui reprennent. Ils reprennent l'esthétique, la musique et l'esthétique skinhead pour une part, mais en même temps, en étant pas tout à fait à l'aise avec ça. Donc je vais arrêter là et je vous remercie pour votre attention.
Merci d'abord pour cette intervention. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est aussi une... Avant les questions, c'est que c'est aussi une problématique qui existe encore aujourd'hui, puisqu'aux États-Unis, il y a un groupe qui s'appelle Prussian Blue qui chante à la gloire du Troisième Reich et qui pose la question de la liberté d'expression dans un pays qui la revendique. Et qui, bon, il y a quand même une problématique là-dedans. On va prendre les questions.
Une question par rapport quand tu as dit que tu as dit la Oi, c'est une perte d'ironie de premier degré. Moi, c'est une interrogation par rapport au nom Foreskin. En fait, ma copine qui est prof d'anglais m'a dit que Foreskin, ça voulait dire, c'était un jeu de mots pour dire prépuce. Ou pénis. Et est-ce que dans ce cas-là, le fait qu'ils aient choisi de s'appeler comme ça, il y a de l'humour ou c'est simplement de la provocation, du second degré ou pas?
C'est de l'humour. Mmh. Mais bon, par contre, c'est pas. Enfin, je maintiens que ma position, c'est pas représentatif parce que quand on voit l'immense majorité des noms des formations OI, en fait, c'est pas. Il y a pas beaucoup d'humour. Et c'est surtout enfin ce que ça revendique. En fait, c'est le côté collectif, c'est-à-dire que souvent c'est des noms communs. C'est pas machin truc et les. C'est un truc et il y a beaucoup de récurrences au niveau, par exemple, de sections, d'infanterie, de brigades, d'armées, des choses comme ça.
Luc, peut-être juste, il y avait Luc qui voulait poser une question avant.
C'est pas une question, c'est deux remarques par rapport à ta communication que j'ai trouvé vraiment intéressante, merci. Sur le lien avec le football, la culture LAD, etc., c'est juste une remarque sur la différence qui peut exister entre la France et l'Angleterre. C'est qu'il faut pas oublier qu'à Londres, il y a en gros une dizaine d'équipes de football et que c'est un petit peu comme si vous aviez 10 PSG, quoi. Donc vous imaginez sur un territoire très réduit, quand tu dis ils partent en guerre, donc c'est effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de rivalité extrêmement, extrêmement serrée qui existe moins chez nous. Et la deuxième chose, c'est que la scène que tu évoques, quand tu évoques le National Front et tous les groupes qui s'agrègent autour, ça a généré, me semble-t-il, presque aussitôt en Angleterre, quelque chose qui n'a pas existé en France, c'est Rock Against Racism, dès 1978. Nous, on y arrive à ce type de mouvement-là qu'en 82-3, et à l'échelle de 40 ans d'histoire, c'est énorme, 5 ans de différence entre l'Angleterre et la France. Donc c'était juste deux remarques.
Sur l'humour, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, dans le sens où, moi je pense qu'un... Un mouvement musical, plus il continue, plus il a tendance à s'auto-caricaturer et à rentrer dans de plus en plus quelque chose d'étroit. Mais au tout début, par exemple, quand tu vois les deux premières compilations Oi, t'as quand même toutes ces fausses formations de groupes qui font des morceaux plutôt rigolos ou plutôt des délires, genre Aveu Cigare et tous ces trucs-là. Et puis, il y a justement Toy Dolls et Splodge, qui sont pas des groupes skin, mais qui en tout cas étaient adorés par cette scène. On appelait ça pathetic punk à l'époque, et qui était plutôt le côté rigolo, très festif, ironique, auto-ironique. Donc au début, il y a une variété, mais de plus en plus et assez tôt, effectivement, ça rentre dans un étau de genre les skins, ça doit être comme ça, quoi, en gros, quoi.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, bon, c'est le temps ne permet pas des fois de faire toutes les subtilités. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que c'est comme s'il y avait une rigidification. Je ne sais pas si ça se dit trop. Un moment de la scène oi où ça va devenir très stéréotypé, très skinhead, où ça va devenir la voix rauque, agressif, enfin des choses comme ça, et ça va perdre un peu du fun qu'il pouvait avoir au départ. Je prends encore une minute pour dire, en fait, ce qui ça t'intéressait aussi. Je pense que ça va peut-être un peu faire le lien. Ce qui est étonnant, par contre, je trouve, c'est en France. Tout de suite, les premiers groupes de oi, ça va être assez de la rigolade. Et il y a un truc qui est assez caractéristique en France, c'est quand des courants arrivent, ça s'est souvent pris sous d'une manière pas très sérieuse. Comme les premiers morceaux rock qui sont venus en France, ça a été des parodies avec Henri Salvador et Boris Vian. Les trucs de punk, de oi, ça va être beaucoup de déconnades au départ, si on pense à la période KO en France. Et même le ska en Angleterre, qui a été un mouvement qui était très social, très revendicatif, le ska en France, ça va vite devenir le ska pouet-pouet, le ska musette, le ska c'est la fête. Et comme si c'était qu'on reprenait quelque chose qui nous appartenait pas, il fallait le s'en détacher un peu et montrer de la dérision, quoi, montrer qu'on prend pas ça au premier degré, quoi. Bon, hypothèse.
Écoute, bravo pour ton exposé et je profite du fait que tu as mis des coupures de presse. Ça me rappelle que je les ai lues en temps réel. Je vois la coupure de presse, je crois que c'était dans Sounds avec NME New Musical Express. Il y a la coupure de presse de l'émeute de South Hall, tout ça. Mais je veux en parler justement, puisque tu as fait allusion au skinhead, au racisme pratiqué. Avant, je voudrais parler d'un terme que tu affectionnes, puisque c'est le terme oi. Et Philippe va aussi en parler. Je crois que le premier à avoir utilisé le terme oi, ce n'est pas le batteur des Cockney pour annoncer le début de chaque morceau. Je crois que le premier à l'avoir utilisé et l'avoir imprimé dans une publicité, c'est Ian Dury. Et donc Ian Dury et son groupe, les Blockheads. Donc ça se passe en 78, je crois, voire fin 77. Et il y a une publicité dans un journal anglais, donc un hebdomadaire, où tu vois donc. Il y a un jury de la tête aux pieds, avec et je crois que la publicité allait de Ian Dury pour son groupe, pour le disque qui va sortir, elle est intitulée Oi, et c'est écrit non pas OI mais OY. Donc tu n'as plus qu'à rechercher ça. Maintenant à propos du racisme des jeunes gens aux cheveux courts. On peut revenir là-dessus. On peut, je voudrais en faire une expérience, faire part de mon expérience personnelle, puisque j'ai atteint un âge vénérable pour en parler. Et donc, je me souviens de mes vacances en Angleterre. Donc, le racisme chez les skinheads en 72, d'abord, ça concerne les jeunes français. Donc, si tu as l'erreur d'être à Londres et d'être français, eh ben, tu vas vite comprendre ce que c'est qu'un skinhead anglais. Deuxièmement, tu faisais allusion à Gary Bushell, le célèbre journaliste trotskiste, autoproclamé moderniste barbu, parce qu'il était aussi, il a dû être aussi moderniste dans sa jeunesse. Il est à l'origine d'un certain nombre de compilations, tu y as fait allusion. Plus intéressant, c'est ce qu'il a dit après coup sur le mouvement Oi, qui est on peut dire que c'est lui l'inventeur du mouvement Oi en termes journalistiques. C'est lui qui a créé la scène, c'est lui qui a créé le prolétariat, le nouveau prolétariat au sens latin du terme, autrement dit en anglais c'est the new breed, la nouvelle portée. En fait, le Malcolm McLaren de la Oi, c'est Malcolm McLaren. Sans lui, il n'y aurait jamais rien eu. Il n'y aurait jamais eu les prépuces. Il n'y aurait pas eu de groupe Oi. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il y aurait eu. Alors, autre chose que je voulais dire, aussi important, concernant la xénophobie pratiquée par les skinheads anglais, elle est très bien expliquée dans un reportage par Gary Bouchol qui fait des confidences sur sa jeunesse et sur les skinheads. Il dit alors, est-ce que dans votre jeunesse vous étiez raciste, tout ça? Il dit non, pas du tout. La preuve, encore aujourd'hui, il y a ce mouvement bitonal, pour parler des toutones. À l'époque, avec les jeunes Jamaïcains, les jeunes Noirs, on écoutait la même musique. Et on a toujours été ensemble contre les Pakistanais. C'est ça. Je crois que s'il y a une leçon à retenir de tout ça, c'est effectivement, il n'y a jamais eu vraiment d'animosité entre les Noirs et les Blancs dans les council estates et dans les cités de la cité de Londres. Mais il y a toujours eu une adversité à l'encontre des Pakistanais. Et alors là, j'apporte la preuve de ce que je dis. J'habitais dans une famille jamaïcaine à Tooting Broadway et j'accompagnais mon copain jamaïcain au lycée et à chaque fois qu'on passait devant des Pakistanais qui étaient pourtant dans sa classe, il disait, tu sais la différence qu'il y a entre eux et nous. Alors eux c'était les Pakistanais et nous c'était moi, Tai Luc, et lui c'était Gerald, un jamaïcain. Il me dit c'est que ils mangent pas comme nous et eux ils puent.
C'est juste une nuance que j'apporte à ce que tu as dit. La différence peut-être entre le racisme ordinaire des skins de la première vague en Angleterre et la seconde, c'est que dans la première, dans les années 60, début 70, c'est plus un réflexe culturel du style « ils nous ressemblent pas, ils écoutent pas la musique cool, ils ont pas les bons vêtements, ils ont pas les bons codes ». Alors qu'à partir de la fin des années 70, c'est un racisme quand même plus politique. C'est quand même la différence que j'apporterais.
Si vous voulez avoir la vision d'un Paki, la naissance... Enfin, je sais pas si tu connais, t'as lu le bouquin de Hanif Kureishi qui s'appelle « Le Bouddha de banlieue », dans lequel il raconte sa naissance du punk et comment il le vit. Et je trouve ça extraordinaire. Il n'y a pas forcément les marques que tu évoques de racisme dans son bouquin. En tout cas, lui, voilà, c'était juste...